Interview.
2 jours.
Auditeur, auditrice de RDIWA, bonjour. L'interview du jour est aujourd'hui réalisée depuis la ferme de Ruinel au petit marché de Chapia, qui a ouvert ses portes là depuis quelques semaines et où on peut se rendre tous les lundis de 17h30 à 20h. Voilà. Et là, c'est une occasion très chouette de venir faire ses courses et de rencontrer celles et ceux qui produisent de quoi se nourrir. Et pour cette interview, on se trouve donc à l'instant avec Vincent Paltera. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes agriculteur, producteur, paysan dans le Diwa. Et vous êtes également membre de la Confédération Paysanne. Alors un syndicat qui défend une agriculture paysanne et l'ensemble de ses travailleurs. Alors j'ai une... Ma première question, ça serait, alors pour vous, quelle différence vous faites entre un agriculteur, une agricultrice et un paysan ?
Alors la distinction entre agriculteur et paysan, elle n'est pas si vieille que ça. Elle date, on va dire, des années 40-50. Il y a tout un mouvement qu'on a appelé la Révolution verte qui s'est mis en place. À savoir un mouvement tout d'abord de mécanisation. On a amené beaucoup de mécanisation dans le travail agricole. Et ensuite un travail sur la chimie qui s'est fait. Donc c'est là qu'on a commencé à inonder les campagnes de produits chimiques. Tout ça en fait pour augmenter les rendements par travailleur. Et on a donc décidé de changer la dénomination de paysan qui avait des connotations. Quand je dis « on », en fait, c'est les promoteurs de la Révolution verte. Et la différence en fait, entre une agriculture paysanne et une agriculture conventionnelle, on va dire, puisque le terme est connu, c'est déjà que l'amont et l'aval du circuit que vont emprunter les produits de l'agriculteur ou du paysan, on peut l'appeler comme on veut, hein, vont être au plus proche de sa ferme.
Au plus court.
Au plus court, si possible.
Au plus sain.
Au plus sain, si possible aussi. L'agriculture paysanne, en fait, c'est une agriculture qui est avant tout ancrée sur son territoire et qui produit dans le respect de son territoire, de son terroir, de certaines traditions aussi, et dans le respect de l'humain et de la nature en général.
Alors vous, Vincent Paltera, quel paysan êtes-vous ?
Moi, je suis paysan pas très loin en fait, de la ferme de Ruinel, au pont des Chênes. C'est à, on va dire, 150 mètres à vol d'oiseau. J'ai donc des poules pondeuses sur poulailler mobile. J'ai de la vigne aussi, donc une partie en clairette que je livre à Jaïence et une partie en raisin de table que je vends en vente directe. Et j'ai aussi quelques plantes aromatiques et de l'ail.
Quelle est la qualité de vos échanges entre paysans et agriculteurs dans le Diwa ?
Moi, franchement, je ne fais pas une distinction entre paysan et agriculteur. C'est de la terminologie, on va dire, qui a été inventée par des technocrates. Voilà. Maintenant, celui qui veut se désigner paysan, c'est quelque part un acte militant pour aller au-delà du péjoratif qu'il y a eu pendant longtemps sur le terme de paysan. Et celui qui veut se désigner agriculteur, il a le droit de se désigner agriculteur aussi. Simplement, les rapports qu'on a, nous, à la Confédération Paysanne, il n'y a pas d'antagonisme direct avec nos collègues qui ne sont pas syndiqués comme nous ou qui ne sont pas syndiqués du tout. L'antagonisme vraiment principal, il est vis-à-vis des politiques agricoles communes, par exemple, qui sont menées par l'État. Il est vis-à-vis de l'agro-industrie qui a imposé en fait un modèle aux agriculteurs et qui change encore d'ailleurs récemment. Et maintenant, agriculteur, ça devient un peu has-been aussi. Et je crois que le gouvernement a lancé une grande campagne pour la promotion des entrepreneurs du vivant. Maintenant, ils appellent ça entrepreneurs du vivant. C'est encore mieux. Il y a entrepreneur, il y a vivant. On peut mettre tout un fourre-tout de greenwashing derrière et oublier en fait que tout ce système, il est écologiquement pas viable, que humainement, en fait, il y a vraiment énormément de problèmes dans le monde agricole aujourd'hui, que les profits, l'essentiel des profits du monde agricole sont monopolisés par des sociétés cotées en bourse, en fait.
Et oui, et au sein de la Confédération paysanne, vous dénoncez la politique d'agriculture commune qui est menée par l'Europe. Alors, comment vous la vivez justement, vous, et en quoi elle n'est pas bonne selon vous ?
Elle n'est pas bonne tout simplement parce que si on regarde les chiffres, c'est en gros 20% des agriculteurs, mais là pour le coup c'est des vrais entrepreneurs, n'est-ce pas, qui touchent 80% des subventions distribuées. Donc ça correspond quand même à un certain déséquilibre dans la répartition des fonds de la politique agricole commune. Et non seulement donc il y a ce déséquilibre qui a toujours existé, hein, je veux dire depuis les années 70-80, les chiffres sont constants, mais en plus de ça, il y a des enjeux écologiques, hein, dans l'agriculture, et la politique agricole commune, jusqu'à maintenant, elle a toujours... lancer des incitations assez homéopathiques pour améliorer les pratiques agricoles vers quelque chose de plus respectueux de l'environnement. Et les négociations qui se passent actuellement montrent qu'en fait, on va faire beaucoup plus de communication sur le côté préservation de l'environnement, etc. Mais quand on va fouiller concrètement, on s'aperçoit que on supprime l'aide au maintien à l'agriculture biologique. On s'aperçoit qu'une partie de l'argent, qui représente 25% à peu près, hein, des aides distribuées, une partie de l'argent donc, qui était consacrée à l'environnement dans la politique agricole commune, on va maintenant le diviser entre l'agriculture biologique et ce qu'ils appellent l'agriculture HVE, haute valeur environnementale, sachant que c'est un label. Qui est assez récent, hein, qui a quelques années, et qui a été étrié par toutes les autorités compétentes, pas seulement hein, les tenants de la bio, mais aussi, je crois, la Cour des comptes ou des choses comme ça, qui ont écrit noir sur blanc qu'en fait, ce label-là ne changeait rien aux pratiques agricoles. Ça va être 5% de pesticides en moins... un tout petit peu de gasoil en moins dans le tracteur, et puis c'est bon, d'un seul coup, on est devenu écologique, quoi.
Alors, du coup, des directives peu ambitieuses, beaucoup d'inégalités dans le domaine agricole, et des grands écarts de revenus, de richesses. Comment vous l'observez, vous, ça ? Est-ce que dans le DIWA, vous avez une connaissance de ces faits et de ces inégalités ?
Dans le DIWA, en fait, on a un contexte quand même qui est assez particulier parce que on est une zone qu'on va appeler défavorisée, hein, d'un point de vue de l'agriculture, du fait de l'altitude déjà, de l'étroitesse des vallées. Il y a tout un tas de cultures qui ne sont praticables qu'à petite échelle, en fait, dans le DIWA et dans les hautes vallées.
Alors, vous avez justement diversifié vous votre production, vous le disiez, œufs, clairettes, plantes aromatiques. Alors du coup, ça c'est aussi une manière peut-être de durer dans votre activité et de pouvoir en vivre.
Oui, moi j'ai conçu mon projet effectivement avec pas mal de postes de travail différents. Ma première activité déjà, c'est les poules pondeuses, et je vends tous mes œufs sur les deux marchés de Die, donc uniquement en vente directe. La deuxième activité, on va dire, c'est le raisin. Donc une bonne partie de mon travail, c'est livrer mon raisin à Jaïence, donc tout le travail en amont pour arriver jusqu'à une récolte que je livre à Jaïence, et auquel j'ai adjoint une partie raisin de table, avec du raisin entre le 15 août et le 15 octobre, que je peux amener pareil sur les marchés. Et l'activité plante aromatique, elle correspond bien en fait au terroir de colline que j'ai. C'est une petite activité de plante aromatique. Hein. Sinon, je fais de l'ail. Je fais quelques centaines de kilos d'ail dans l'année que j'arrive en général à écouler aussi en vente directe ou en circuit court.
Alors, pour ce qui est de la vie paysanne, est-ce que vous avez observé et entendu peut-être à la Confédération paysanne combien certaines personnes, certains paysans, paysannes peuvent être en difficulté dans leur travail? Est-ce que vous avez, vous, l'écoute de ces faits?
Alors, nous, en fait, à la Confédération paysanne, en tant que syndicat, on a déjà un rôle. C'est celui de défenseur des paysans et de médiateur vis-à-vis des institutions. Parce que une bonne partie des problèmes que peuvent avoir les paysans, c'est face aux institutions, c'est face à l'administration, avec, par exemple, la politique agricole commune, qui représentent des dossiers à s'arracher les cheveux tous les printemps à remplir. Et la moindre erreur en fait peut enchaîner par voie de conséquence des recours administratifs, des procès, des choses qui durent très longtemps, qui prennent beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc on essaie d'accompagner les agriculteurs face à ces problèmes-là, face aussi aux calamités agricoles, et notamment avec la DDT, la Direction départementale des territoires, qui va décider de l'instauration du statut de calamité agricole, qui va décider des taux à partir duquel on peut rentrer dans le dispositif de calamité agricole, etc. Et puis on a aussi des fois carrément des témoignages de paysans qui sont en détresse dans leur travail, mais c'est rare en fait que le travail en lui-même soit le motif premier de la détresse paysanne. Souvent ça c'est quelque chose d'extérieur au travail qui va arriver et qui va mettre le grain de sable ou carrément les bâtons dans les roues, et qui va faire qu'on n'arrive plus à s'en sortir.
Quelles sont les difficultés dans la vie d'un paysan que tu connais, que tu as repéré, que tu as peut-être toi-même rencontré?
Moi, je dirais que la première des difficultés, en fait, c'est le travail administratif, c'est les papiers. Les papiers, ça fait chier. Et très souvent, en fait, on est aux prises avec des administrations assez obtuses, qui ne veulent pas comprendre, qui redemandent, qui re-redemandent et qui re-redemandent toujours les mêmes papiers. Et en fait, moi, mon travail, c'est pas ça, quoi. C'est pas passer ma vie sur un ordinateur à faire des courriers à telle ou telle ou telle administration. Ma vie, c'est d'être avec mes poules, c'est d'être sur ma vigne, en train d'épamper, en train de tailler. C'est vrai que la première chose qui me pèse, moi, c'est le travail administratif.
Et tes collègues, là, tu as rencontré, tu connais des gens qui sont un peu dans la peine. Et quelles sont les raisons de ces difficultés, en général?
Les difficultés, ça peut venir d'un accident de parcours, mais très souvent aussi, c'est lié justement un manque de suivi administratif, quoi. Ça arrive très fréquemment vu la complexité en fait des tâches administratives qui nous sont demandées, on fasse des erreurs ou que l'administration fasse des erreurs. Et dans ces cas-là, en général, c'est des complications à n'en plus finir. Il y a une grosse pression normative en fait sur l'agriculture. Qui a été beaucoup promu par l'agro-industrie et qui en fait étrangle le paysan, le petit paysan. Parce que l'agro-industriel, lui, il a un bureau d'études qui va faire le travail et puis lui régler tous ses problèmes sur toutes ses usines à l'échelle du pays ou du monde, quoi. Le petit paysan, lui, quand il faut qu'il aille décortiquer un règlement européen ou une quelconque procédure administrative relativement complexe, bah, il est tout seul face à ça. Des fois, il n'a même pas les moyens de payer un comptable ou un conseil. Et du coup, on a beaucoup de pression vis-à-vis de ça.
Et beaucoup de solitude dans ces moments-là.
De la solitude, ouais. Après, inévitablement, on essaye aussi de se parler, de s'entraider. Mais personne ne peut faire les papiers à notre place, hein. Et d'ailleurs, bon, dans le modèle traditionnel de l'agriculteur, en général, le monsieur est sur le tracteur et madame fait les papiers et autres, quoi. Mais ce modèle-là, bon, il date un peu d'un autre âge. Maintenant, c'est vrai que ça devient de plus en plus rare, ne serait-ce que de pouvoir en couple gérer tout ça.
Alors, et quel moyen vous avez, vous, pour pouvoir être à l'écoute et soutenir celles et ceux qui se trouvent en difficulté? Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Est-ce que vous avez, il y a des temps de rencontre? Qu'est-ce que vous pouvez proposer concrètement?
Donc, la Confédération paysanne, déjà, elle a un numéro de téléphone sur lequel on peut la joindre, un mail aussi. Et on travaille avec des organismes qui nous sont pas affiliés, mais on va dire des organismes
Avec qui vous
cousins,
partenaire?
des partenaires avec qui on travaille. Donc les partenaires avec qui on travaille, il y a Solidarité Paysan, notamment pour tout ce qui est la grande détresse, et qui se déplace, qui rencontre les gens, qui éventuellement essaye de servir d'intermédiaire vis-à-vis notamment des administrations, d'essayer d'éclaircir les problèmes de papier, les problèmes qu'ils peuvent avoir financiers pour obtenir des reports de cotisations, par exemple auprès de la Mutualité sociale agricole, la MSA. On a aussi un service juridique qui s'appelle le CAJ, Comité d'action juridique, qu'on peut contacter aussi et qui accompagne plus particulièrement les paysans en fait dans les conflits qu'ils peuvent avoir au niveau du droit rural. Alors ça peut être des conflits de voisinage, ça peut être des conflits vis-à-vis de la PAC, mais en général, enfin, le CAJ s'occupe pas tellement de la PAC, et qui peut être aussi tout simplement de conseil, dans un rôle de conseil quand on veut racheter un bout de terrain, louer un terrain et qu'on ne sait pas combien il vaut ou combien on peut le louer. Donc le CAJ peut avoir un rôle de conseil comme ça.
Ok. Alors, ben, moi, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et je vous propose qu'on écoute la chorale L'Émeute qu'on avait enregistrée à l'époque où vous étiez sur la plaine de Chamarges à défendre cette zone pour qu'elle reste agricole. Voilà, ben, on se retrouve tout de suite. L'Émeute.
À tout de suite.
Non, je suis resté droit là devant les patrons, même le jour où ils ont passé la conscription. Je suis fils de paysans et fils d'ouvriers. Je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. Je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. La 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 la. Dans les forêts, je me suis caché, refusant de servir de chair à canon, refusant de mourir au loin pour la nation, une nation qui ne fut jamais vraiment la mienne, une alliance forcée de misère et de peine, celle du du génocide des Premières Nations, celle de l'esclavage et des déportations, celle de l'esclavage et des déportations. La 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 la. Ce pays, la terre qui m'a vu naître, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. La 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 la. Si j'aime ce pays, la terre qui m'a vu naître, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître, je ne veux pas de Dieu, je suis mon propre maître.
Macron dit Dieu du maître.
Alors voilà, on est toujours au marché de Chapia avec Vincent Paltera, qui est agriculteur, producteur dans le Diwa, et bien sûr membre de la Confédération paysanne. Récemment, auprès de l'ONU, il a été fait reconnaître les droits des paysans, paysannes et autres personnes qui travaillent dans les zones rurales. Et ainsi, un certain nombre d'articles ont été rédigés. Puisque, je lis, constatant avec préoccupation que la pauvreté, la faim et la malnutrition frappent de manière disproportionnée les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales, constatant également avec préoccupation que les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales pâtissent des graves conséquences de la dégradation de l'environnement et des changements climatiques. Voilà, et c'est dans ce contexte-là que cette déclaration a pu être rédigée et reconnue donc par l'ONU. Alors, est-ce que la Confédération paysanne a participé à la rédaction de ces articles et a participé à la réflexion de tout ce travail?
Oui, oui, la Confédération paysanne en fait fait partie d'un réseau international de syndicats paysans et de mouvements en fait de lutte paysanne. On travaille notamment avec la Via Campesina, qui est une organisation internationale de défense des paysans, avec le mouvement des sans terres au Brésil, en Amérique du Sud, et d'autres mouvements partout dans le monde en fait qui essayent de défendre vraiment les droits des paysans, parce que faut bien se rendre compte que à l'échelle de la planète, on parlait tout à l'heure de la révolution verte. La révolution verte en France, certes, elle a fait des dégâts, mais c'est rien du tout comparé en fait au rouleau compresseur qui s'est abattu sur ce qu'on appelait les pays du tiers-monde, n'est-ce pas ? Ce tiers-monde, il a été dépossédé de sa terre, il a été dépossédé des moyens de se nourrir. Et en fait, y a un problème de fond à l'échelle de la planète, parce qu'il y a un mensonge qui est que c'est l'agriculture industrielle qui nourrit la planète, alors que même à l'heure actuelle, même encore aujourd'hui, 70% des gens vivent grâce à des paysans, à des gens qui produisent et vendent leurs produits localement. Et l'agriculture industrielle, elle n'a pas été inventée pour nourrir la planète. L'agriculture industrielle, elle a été inventée pour s'accaparer la nourriture et donc s'accaparer le pouvoir sur les gens. Et ce pouvoir, en fait, que les paysans ont de nourrir la planète, là, il est grandement menacé. Et cette déclaration à l'ONU, c'est, on va dire, un premier pas vis-à-vis d'une reconnaissance internationale du rôle et de l'importance, que ce soit d'un point de vue social ou que ce soit d'un point de vue de l'environnement, de l'agriculture paysanne.
Alors, c'est, il y a un certain nombre d'articles donc, qui relèvent les droits des paysans et paysannes du monde. Et le premier article définit ce que sont les paysans. Alors, c'est peut-être intéressant de le lire. Hein. « Aux fins de la présente déclaration, un paysan est toute personne qui mène ou qui cherche à mener, seule ou en association avec d'autres, ou au sein d'une communauté, une activité de production agricole à petite échelle, de subsistance et ou destinée au marché, qui s'appuie largement, mais pas nécessairement exclusivement, sur la main-d'œuvre de la famille ou du ménage et d'autres formes non monétaires d'organisation du travail et qui a un lien particulier de dépendance et de rattachement à la terre. » Il faudrait que je le relise.
Oui, bon, c'est une déclaration de l'ONU, hein, donc c'est assez... ça a un style un peu administratif, ouais, à mon goût.
Ouais.
Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, paysan, ça a été le travail de 99% de l'humanité depuis la révolution néolithique. Donc, depuis à peu près 10 000 ans, on va dire. Depuis 10 000 ans, l'essentiel de l'humanité vit de ce qu'elle produit, vit des produits de la terre, vit de l'élevage. Et cet état de choses, en fait, est en train de changer à grande vitesse depuis l'industrialisation de l'agriculture. Depuis l'industrialisation de l'agriculture, il y a de moins en moins de gens qui travaillent dans l'agriculture et il y a de plus en plus de gens à nourrir. Donc il y a une concentration d'une valeur essentielle à la vie, c'est la production de nourriture dans de moins en moins de personnes. Et ça va être à l'avenir en fait extrêmement... dommageable, parce que si les gens ne peuvent pas se nourrir par eux-mêmes, s'ils sont dépendants de l'agro-industrie, ils sont d'autant plus soumis à un système qui nous emmène dans le mur, qui nous emmène droit dans le mur, quoi.
Et alors, est-ce qu'on aurait la possibilité d'espérer que quelque chose puisse changer et que vous parliez tout à l'heure des inégalités entre producteurs, est-ce que agriculteurs, paysans, est-ce qu'on pourrait imaginer un monde où ceux qui produisent ce qui nous est essentiel pourraient vivre dans de bonnes conditions et vivre de leur travail?
Les choses, en fait, elles ont déjà changé, hein. Que ce soit via la Confédération paysanne ou des gens qui ne sont pas spécialement syndiqués, mais qui ont choisi des modèles différents, des modèles alternatifs. Les modèles alternatifs, ils s'imposent, en fait, de plus en plus, même dans les agriculteurs conventionnels. Parce que le système étant toujours aussi gourmand, on arrive en fait à un point où l'ancien modèle de production, donc basé sur la mécanisation, la chimie et les volumes, a été délocalisé en fait en France. Là, on a 85% des légumes et des fruits en France qui sont importés. Les seuls domaines où on reste à peu près exportateur, on va dire, c'est le vin, la céréale. Mais le reste des denrées, on les importe. On les importe. Et tous ceux qui, en fait, travaillaient à une époque dans le légume industriel, dans les fruits industriels, soit ils ont disparu, soit ils ont changé leur modèle. Et du coup, s'ils ne voulaient pas disparaître, il fallait qu'ils se tournent vers une demande aussi du consommateur, qui était de manger des produits plus sains, de manger des produits plus locaux, de manger des produits meilleurs. aussi.
C'est donc bien cette paysannerie qu'il semble être nécessaire de défendre.
Ce modèle-là, il se construit un peu envers et contre l'État, envers et contre les syndicats agricoles majoritaires et envers et contre l'agro-industrie. Mais malgré tout, il se construit. Il se construit aussi parce que c'est un modèle où on a du lien avec nos clients, qui sont des gens qu'on côtoie tous les jours, à qui on peut expliquer comment on produit. Et on voit bien que, en fait, y a un lien à reconstruire, en fait. Un lien à reconstruire entre notre alimentation et les gens qui les produisent. Il y a aussi un modèle écologique qui doit changer. Et à la Confédération paysanne, on défend le fait qu'on doit être nombreux dans l'agriculture. L'agriculture, ça représentait 40% des actifs français au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ça représente moins de 2%. Donc tout ça, ça s'est fait comment? Ça s'est fait à coup de chimie et à coup de pétrole, à coup de mécanisation à outrance. Donc, c'est extrêmement polluant, tout ça. Et secondo, en plus, on produit des légumes de... Enfin, on a des produits de bien moins bonne qualité. Et en plus de ça, le profit de ces productions va non pas à ceux qui produisent, mais principalement à tous les intermédiaires qui sont entre le producteur et le consommateur. Donc le consommateur, lui, s'y retrouve pas non plus.
Donc non seulement le producteur ne gagne pas si bien sa vie que ça, il se met peut-être en danger dans sa manière de produire ses légumes, et il s'isole un peu peut-être. Et du coup, ce qu'il semble apparaître, c'est que vous, dans votre manière de faire, vous essayez de détourner tout ça pour proposer autre chose. Et effectivement, le lien social semble au cœur aussi de votre travail.
Oui, non seulement il est au cœur de notre travail parce qu'on travaille beaucoup sur des circuits courts ou carrément avec la vente directe, mais il est aussi au cœur de notre travail parce qu'on porte en fait bien plus que les revendications d'un métier, on porte un projet de société quelque part. Un projet de société qui voit autre chose en fait que quelques territoires où on va laisser deux trois indigènes continuer à faire du bio pour l'affiche dans un joli environnement où les gens vont pouvoir venir en vacances, et à côté de ça des grandes plaines industrielles et des élevages bien cachés dans des bâtiments concentrationnaires. Nous, ce qu'on défend en fait, c'est que l'agriculture représente un maillage à l'échelle du territoire, et que chaque territoire puisse avoir un tant soit peu d'autonomie alimentaire. Après, on est dans une problématique où on a quand même des très grandes villes, 80% de la population qui vit dans très grandes villes, dans ces très grandes villes, donc c'est vrai, c'est pour ça que c'est un changement de société.
Et est-ce que sur ce territoire où vous essayez de tendre vers de l'autonomie alimentaire, est-ce que c'est aussi des espaces où on vous laisse et on vous accompagne aussi pour expérimenter et chercher des manières de faire qui permettent de réussir au mieux et d'être bien avec son travail?
Justement, ces territoires-là, c'est des territoires qui ne représentaient pas des possibilités de profit pour l'agro-industrie. Donc c'est pour ça que c'est des territoires où on retrouve des modèles alternatifs. Après, l'accompagnement, jusqu'à il y a peu, il était quasi inexistant. Voire même, en fait, c'était plutôt des bâtons dans les roues qu'on mettait aux gens qui portaient des modèles alternatifs. Là, je pense que... Justement, il y a un besoin d'image qui fait que on retrouve une valorisation un peu plus à grande échelle de ce modèle-là. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est que c'est justement juste un besoin d'image. C'est pas un besoin de changer le modèle en profondeur. Donc, c'est à chacun, chacune, de s'emparer de ce modèle-là. Et je parle pas simplement des paysans. Je parle aussi de tout. tous les gens en fait qui ont envie d'un changement de paradigme.
Est-ce qu'il vous semble possible que d'autres territoires qui ont moins de paysans, puisque dans ces zones-là, l'agriculture s'est intensifiée, est-ce qu'il y a des passerelles et des possibilités d'être inspirant pour d'autres? Est-ce qu'il y a des endroits de rencontres, d'échanges?
Je pense que dans tous les territoires, il y a toujours eu des gens qui ont cherché des modèles alternatifs, des gens qui se rendaient compte qu'en fait, empoisonner la terre, empoisonner notre production à coup de chimie et s'empoisonner eux-mêmes, c'était pas possible. Et simplement, effectivement, dans certains territoires, la pression que certains vont mettre sur ces modèles alternatifs-là, pression négative, quoi. Elle est très importante parce que la remise en cause du modèle non seulement remet en cause le circuit des profits, hein, voilà, mais en plus de ça remet en cause pour beaucoup une conception du travail qui a profondément infiltré, on va dire, le milieu paysan, qui les a transformés en agriculteurs et maintenant, comme on disait tout à l'heure, hein, comment ils disent, entrepreneurs du vivant, n'est-ce pas ? Qui fait que y a un certain enfermement dans une façon de faire et l'impossibilité apparente de changer ce modèle va parfois inciter certains à critiquer, voire à être agressif, voire à être carrément ultra critique vis-à-vis des modèles alternatifs.
Ouais, donc du coup, là, dans ces moments-là, l'échange ne se fait pas et il semblerait que ça soit difficile. Mais est-ce que vous restez malgré tout confiant? Et quelles possibilités il y a? Puisque j'imagine aussi que peut-être vous formez, vous participez à la formation des jeunes agriculteurs. Est-ce que dans ces réseaux-là, dans ce cadre-là, il y a moyen d'agir?
Alors la Confédération Paysanne travaille avec le réseau des ADAR. Donc c'est des réseaux de formation, formation agricole, donc ouverte à tous, et qui ont possibilité de financement via les financements agricoles, donc financement professionnel des filières agricoles, et qui donc vont amener des savoir-faire qui ont été élaborés maintenant depuis plusieurs décennies par des paysans, des paysannes qui ont bâti des modèles agricoles en circuit court ou en vente directe avec de la polyculture ou pas, mais en tout cas des modèles qui tentent de s'extraire du piège de l'agro-industrie.
Est-ce que vous êtes en lien et vous avez connaissance de ce que fait ou propose BioVallée?
Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que BioVallée, je sais que c'est une très grosse association qui brasse beaucoup d'argent, qui est très en lien en fait avec des grands appels à projets et qui décroche des millions. Après, concrètement, le lien entre le monde paysan et BioVallée, je le vois pas très très direct. Voilà.
Vous le regrettez ?
Je sais pas si je le regrette, parce que pour moi, BioVallée, c'est une entreprise d'image, beaucoup, et qui de temps en temps, effectivement, arrive à porter des projets dans l'aide à la recherche de subventions qui peuvent être intéressants. Je sais qu'ils ont fait pas mal de rénovations thermiques sur des bâtiments. Ils promeuvent des projets, pour moi, actuellement très technicistes. Et c'est pas le modèle qu'on va défendre, quoi. Nous, on pense que ce qui nous a mis un petit peu dans les problèmes qu'on vit actuellement, c'est l'excès de confiance dans la technique, dans la science avec un grand S, et que ça va être plutôt en retrouvant un lien avec notre environnement qui va pas forcément passer par des chiffres, des grandes études scientifiques et de la mécanisation, qu'on pourra revenir à quelque chose de plus équilibré.
Si on revient un peu à cette déclaration adoptée par l'ONU des droits paysans, il est peut-être temps qu'on parle de cette caravane d'information, la caravane des droits, qui va partir sillonner la France pour sans doute éclairer tout un chacun, chacune, à ce que c'est que d'être paysan et de quels sont leurs droits. Alors, il se trouve que cette caravane des droits paysans, paysannes et du monde rural passera dans le Diois en septembre. Est-ce que vous êtes partie prenante de cette action?
Donc, l'action est évidemment soutenue par la Confédération Paysanne et les Amis de la Confédération Paysanne, donc qui est une association qui regroupe des gens qui soutiennent la Confédération Paysanne sans pour autant être paysans, agriculteurs, enfin du métier ou plus du métier, voilà. Mmh. Et donc oui, on va être plusieurs de la Confédération Paysanne du Diois à participer aux rencontres qui vont être organisées autour de la caravane des droits paysans. Donc non seulement effectivement on peut redire à quel point c'est important que à l'échelon international pour ce qu'on appelle de manière péjorative comme d'habitude les pays du tiers-monde on puisse reconnaître les droits des paysans, mais aussi ça est une occasion en fait de présenter le modèle de société que la Confédération Paysanne défend via une activité beaucoup plus importante de la population dans la production de sa nourriture.
Ouais. Voilà. Et pour finir, bon ben effectivement, il y a un agenda là, important là pour l'été que mène donc la Confédération Paysanne. Le dimanche 25 juillet sur le Vercors, un pique-nique est organisé. Pareil, un temps de rencontre et d'échange. Donc cette caravane des droits paysans paysannes du monde rural et en septembre, le 25 septembre, la fête paysanne où voilà à nouveau concerts, marchés, stands associatifs et tout ça en musique et dans la bonne humeur, oui, parce que tout ça c'est quand même important, la bonne humeur.
Oui, c'est une vieille tradition, hein. Chaque année à la Confédération Paysanne on organise donc une fête, la fête paysanne. Elle se situe en général vers le début de l'automne comme ça. Et c'est vraiment, vraiment l'occasion de se rassembler déjà entre paysans, parce que à l'échelle du département, on n'a pas toujours l'occasion de se voir, on va dire, à plus de 30 km de distance. Hein, donc c'est l'occasion de se rencontrer entre paysans. C'est l'occasion pour les gens de rencontrer des paysans. C'est l'occasion aussi de venir découvrir tout un tas de produits à l'occasion du marché paysan. Et puis, c'est aussi pour nous une possibilité d'expliquer de manière plus approfondie, avec un débat qui est organisé en général autour d'un thème et où chacun peut prendre la parole. On invite des gens qui sont assez calés, on va dire, sur les sujets dont on veut débattre. Mais tout le monde a la possibilité de venir et de débattre, soit par exemple de l'élevage paysan comparé à l'élevage industriel, qui peut venir, on peut venir discuter des enjeux écologiques. On n'a pas encore calé le thème du débat de cet automne, mais ça se passe donc sur une journée. Très souvent, c'est sur une ferme. Et on invite tous ceux qui veulent passer un bon moment, parce qu'on finit toujours avec un bon repas et en musique, à nous rejoindre pour cette fête paysanne.
Voilà, et la musique, alors la musique, vous en écoutez, vous, en travaillant?
En travaillant, ça peut m'arriver, mais c'est assez rare quand même, parce que j'aime aussi justement le relatif silence, enfin en tout cas les bruits de la nature que je peux entendre en travaillant. Je mets de la musique sur les travaux répétitifs, souvent dans la vigne.
Voilà. Ouais. Et alors, quelle musique vous pourriez partager avec les auditeurs auditrices de RDWA pour finir, pour terminer ce moment?
Ben moi, je propose qu'on écoute un vieux morceau de Rebetiko. Le Rebetiko, c'est la musique des exilés grecs d'Asie mineure quand ils ont débarqué en Grèce suite aux échanges de population qui avaient été faits après la guerre contre la Turquie.
Et ben voilà, on y va, on part un peu dans le temps et... avec toute cette musique. Merci Vincent.
Et, merci.
Et à bientôt. Voilà. Voilà, alors c'était l'interview du jour avec Vincent Paltera depuis le marché de Chapia, ferme de Ruinel, et ce petit marché donc tous les lundis de 17h30 à 20h. Il fait bon vivre ici. Allez, salut.
Salut.
Voilà, vous écoutez RDWA 107.5 FM, la radio du Diwa.
Βαρέσαλμα καστινή πόγα ρε να πω πήρε να πω πίσω στην κατώνα βαρέσαλμα, βαρέσαλμα καστινή πόγα. Βενινάς μπα, βενινάς μπα, ζωσ με το κούπιο και ρίχνει μου σμούλα στο ρούχο. Βενινάς μπα, βενινάς μπα, ζωσ με το κούπιο και ρίχνει μου σμούλα στο ρούχο. Και κατρακί λύσε το πέσι μαντρινιώνα, μαντρινιώνα αργύλε στη μέση. Και κατρακί λύσε το πέσι μαντρινιώνα, μαντρινιώνα αργύλε στη μέση. Και το να ναύει Κυριακούλα ρε που γυτάνει ράκε τσιγάρια στη ζούλα. Και το να ναύει Κυριακούλα ρε που γυτάνει ράκε τσιγάρια στη ζούλα. Για σου ρε μίτσο στραβοκάνι που σε μαστούρι απ' το τουμάνι. Για σου ρε μίτσο στραβοκάνι που σε μαστούρι απ' το τουμάνι.